Bien à l'heure, nous allons commencer tout de suite. Jean-Jacques Ayagon est retenu par la gestion quotidienne pendant un certain temps. Les deux intervenants sont présents maintenant, parce que Jean Golzing vient d'arriver. Donc nous allons traiter deux sujets passablement différents, mais tout à fait connectés, puisque M. Jean-Marc Sauvé va nous parler de la séparation des pouvoirs du point de vue des activités qu'il a menées, et notamment du rapport qu'il a remis au président de la République pour une nouvelle déontologie de la vie publique. Et puis ensuite, Jean Golzing nous parlera de Montesquieu. Vous n'entendez toujours pas, là? C'est bon? Il faut que je... Peut-être aussi que je ramène tout ça plus près. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, je présente Jean-Marc Sauvé rapidement. Il est né en 1949. Il est vice-président du Conseil d'État, président du Comité européen chargé d'évaluer les candidatures aux fonctions de juge à la Cour de justice et au Tribunal de l'Union européenne, carrière ancien élève de l'École nationale d'administration, auditeur au Conseil d'État, conseiller technique dans différents ministères, directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Justice, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur de 88 à 94. Il a été préfet, exercé des responsabilités de préfet. De 1995 à 2006, il était secrétaire général du gouvernement et depuis 2006, il est vice-président du Conseil d'État. Je suppose que vous avez entendu parler du rapport qu'il a présenté en tant que président de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Et ce rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'intitule « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique ». Je passe tout de suite la parole à Monsieur Sauvé.
Oui, Monsieur le Président, j'ai l'intention de vous entretenir non pas du rapport pour une nouvelle déontologie de la vie publique, mais plutôt de la place de la justice dans la séparation des pouvoirs. Enfin, tout est dans tout, et je suis tout à fait sûr que nous convergerons peut-être par rapport à vos attentes. La séparation des pouvoirs s'est construite en Occident sur un paradoxe. Penser pour atténuer, voire combattre la souveraineté absolue qui fondait les monarchies de droit divin, elle n'a pas su immédiatement s'imposer, du moins en Europe, comme le véritable principe fondateur d'organisation des pouvoirs publics, et elle n'a pas été, par suite, en mesure de remplir son office ultime, qui est de protéger la personne humaine contre les risques de tyrannie que peut porter en elle l'expression de toute forme de souveraineté, y compris la souveraineté populaire. C'est en France, semble-t-il, que ce paradoxe a atteint sa plus grande intensité. Certes, patrie de Montesquieu, notre pays fut le lieu de l'affirmation solennelle du principe selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Notre premier essai constitutionnel, la constitution du 3 septembre 1791, qui ne vécut qu'un an, entendit reposer sur la séparation des pouvoirs et consacra explicitement l'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant. Mais, en proclamant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en bâtissant les fondements de la démocratie, les révolutionnaires n'ont pas pu ou pas su saisir l'aporie que portait en lui le régime qu'ils instauraient. En substituant au corps du roi, comme expression de la souveraineté, l'idée d'une volonté générale abstraite, incarnée dans la toute-puissance de la loi et d'elle seule, il crée, dans le même temps, des conditions de la domination d'un pouvoir sur les autres. De l'ancien régime à la Révolution, c'est le même État qui s'est perpétué. Seuls ont changé le souverain et donc la source de la légitimité, le peuple, s'est substitué au roi. À cette vision unitaire de la souveraineté s'est ajouté pour la justice le péché originel dont elle était affligée pour les révolutionnaires, celui des parlements d'ancien régime dont la justice inéquitable, voire inique, et la fronde régulière contre le pouvoir royal avaient laissé le souvenir d'un corps judiciaire hostile au progrès et même réactionnaire. La justice de l'ère démocratique s'est ainsi construite en France et sans doute en Europe comme un pouvoir sans autorité, un pouvoir creux. Mais ce que les révolutionnaires et même leurs successeurs, les républicains du XIXe siècle, ont peiné à percevoir et plus encore à mettre en pratique, c'est que la démocratie ne se résume pas à la souveraineté de la nation et du peuple. Elle ne trouve sa complétude que dans la conjonction de cette souveraineté et de l'état de droit. Or, ce dernier ne peut exister sans un équilibre entre les trois pouvoirs séparés et donc sans la reconnaissance de l'indépendance et de l'autorité de la justice. L'histoire l'a montré, l'émergence de l'état de droit est indissociable de cette reconnaissance. En effet, seule l'indépendance et l'autorité de la justice peuvent permettre à celle-ci d'accomplir la fonction qui est la sienne en démocratie, celle de gardien du pacte social. Il est dès lors de la responsabilité des trois pouvoirs de veiller à la sauvegarde de cette indépendance et de cette autorité. L'émergence de l'état de droit est donc indissociable d'une séparation des pouvoirs équilibrée et de la reconnaissance de l'indépendance et de l'autorité de la justice. Tel sera mon premier point. Ce constat est le fruit de la pensée, mais aussi des leçons de l'histoire. Des théories philosophiques qui ont posé les fondements doctrinaux de la séparation des pouvoirs ont bien mis en évidence le lien consubstantiel entre l'état de droit et l'indépendance d'une justice qui soit à l'égal des autres pouvoirs et agisse en harmonie avec ceux-ci. Les plus connues de ces théories, celles de Locke et de Montesquieu, attestent ce lien a contrario. Tous deux ont posé l'idée d'une séparation ordonnée des pouvoirs comme fondement de la liberté civile et politique. Le premier, dans son traité du gouvernement civil, en définissant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif comme des pouvoirs séparés, mais interagissant l'un sur l'autre dans l'intérêt du bien public. Montesquieu, au travers de l'analyse qu'il fit de la Constitution d'Angleterre dans l'esprit des lois, a également affirmé que la séparation des trois puissances, ainsi qu'il les nommait, est le fondement de la liberté. Mais ni les réflexions de Locke, ni celles de Montesquieu n'avaient directement pour objet de penser ce que l'on ne nommait ni ne pensait encore comme l'état de droit. L'œuvre de Locke a d'abord été un combat contre la théocratie anglicane et l'absolutisme monarchique. Celle de Montesquieu a été pour sa part essentiellement une critique de la doctrine du droit naturel pour donner à l'art politique une portée que le thomisme avait considérablement restreinte selon l'analyse qu'en a faite Léo Strauss. L'office de la justice dans la séparation des pouvoirs n'était donc pas directement l'objet de la doctrine des deux philosophes, comme l'a rappelé ce matin Pierre Rosanvallon, et de fait, la place qu'ils lui firent a été pour le moins réduite. Locke n'évoque ainsi qu'incidemment la fonction juridictionnelle, et des trois puissances de Montesquieu, celle de juger, je le cite, « si terrible parmi les hommes », doit être, je le cite toujours, en quelque façon nul. Les juges ne sont pour lui que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer la force ni la rigueur. Kant, dans la métaphysique des mœurs notamment, a sans doute été l'un des premiers à exprimer de manière claire le lien entre l'état de droit et l'existence de trois pouvoirs équilibrés, impliquant une justice indépendante et dotée d'autorité. Pour lui, les trois pouvoirs sont dépositaires de la souveraineté. Ils sont distincts mais coordonnés, comme autant de personnes morales. Ces pouvoirs sont donc complémentaires et subordonnés les uns aux autres, de sorte qu'aucun d'entre eux ne puisse prendre le pas sur l'autre. C'est dans cette vision équilibrée du pouvoir suprême que, selon Kant, l'État a son autonomie, c'est-à-dire se forme et se conserve lui-même d'après les lois de la liberté, et c'est en elle, dans cette division équilibrée des pouvoirs, que réside le salut de l'État, c'est-à-dire l'état de la plus grande concordance entre la Constitution et les principes du droit, autrement dit l'état de droit, vers lequel, nous dit Kant, la raison, par un impératif catégorique, nous oblige à tendre. L'histoire a aussi montré le caractère indissociable de l'état de droit et d'une séparation des pouvoirs équilibrée impliquant la reconnaissance de l'indépendance et de l'autorité de la justice. Rares, voire inexistants, sont les régimes politiques en Europe, fussent-ils démocratiques ou ainsi proclamés, qui sont parvenus à perdurer sans l'existence de trois pouvoirs équilibrés. Notre histoire nationale au XIXe siècle en témoigne. La succession des régimes et l'émergence difficile de la République ne sont pas séparables de la subordination permanente de la justice aux autres pouvoirs. Au pouvoir législatif, bien sûr, la procédure dite du référé législatif, instaurée par la loi des 16 et 24 août 1790, a ainsi perduré jusqu'en 1837. Elle imposait aux juges notamment de s'adresser au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle. Quant à la subordination de la justice au pouvoir exécutif, elle peut être illustrée par la pratique récurrente des épurations du corps judiciaire. Chacun des régimes qui se sont succédés a procédé à un renouvellement massif de ce corps. Tel fut le cas de l'Empire, avec des épurations de 1808 et 1810, mais aussi de la Seconde Restauration en 1815, ou encore de la Monarchie de Juillet en 1830 et de la Deuxième République en 1848. La Troisième République n'a pas dérogé à cette pratique. Les années 1879-1883 ont été celles d'un renouvellement presque complet du Conseil d'État, que je préside, et d'une épuration massive des juges judiciaires. Plus proche de nous, mais tout aussi révélatrice, à contrario, de la conjonction entre l'indépendance et l'autorité de la justice et l'émergence de l'état de droit, apparaissent aujourd'hui les insuffisances et l'impuissance des juges en Europe à conjurer les atteintes aux droits fondamentaux pendant l'entre-deux-guerres et sous l'occupation nazie, alors pourtant que les régimes en cause jetaient à bas l'édifice de la garantie des droits patiemment construit depuis plus d'un siècle. Les facteurs qui ont contribué à cette régression brutale sont évidemment nombreux, mais à n'en pas douter, l'absence d'une justice disposant de l'autorité suffisante pour rappeler les fondements du pacte démocratique y a contribué. Soit que structurellement, elle n'ait pas disposé de pouvoir suffisant pour s'opposer aux pulsions des représentations nationales ou des peuples, soit qu'en dépit des pouvoirs dont elle disposait, elle ait été par trop timorée ou encore réservée à l'égard du régime démocratique. C'est ainsi que le mime de la démocratie et de la souveraineté du peuple a pu conduire à la négation de la personne et même du genre humain, sans coup d'arrêt ni frein d'aucun pouvoir, même judiciaire. L'histoire témoigne aussi à l'inverse de ce que la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice ont été un fondement essentiel et même la matrice de la garantie des droits fondamentaux sans laquelle il n'est pas de démocratie. L'exemple des États-Unis mérite d'être cité. La Constitution américaine, adoptée le 17 septembre 1787, a été fondée dès l'origine sur une séparation équilibrée des pouvoirs, selon le principe des freins et des contrepoids, séparation incluant un pouvoir judiciaire fort, symbolisé et incarné par la Cour suprême. Même si plusieurs arrêts au long de l'histoire de cette Cour ont été et demeurent controversés, la pérennité de la Constitution américaine et l'affermissement de la garantie des droits aux États-Unis démontrent avec éclat la capacité d'une démocratie organisée autour d'une séparation équilibrée des pouvoirs, incluant un véritable pouvoir judiciaire, à garantir la cohésion de la société et à surmonter les épreuves du temps, en préservant par-delà les crises de toute nature les fondements mêmes de l'état de droit. Le second exemple est celui de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Malgré la conquête progressive du suffrage universel et la mise en place d'une responsabilité de l'exécutif devant la représentation nationale, les épreuves que notre continent a connues au cours du XXe siècle ont souligné l'impuissance de cette représentation à incarner seule la démocratie et à assurer durablement la garantie des droits. De fait, l'évolution postérieure à la Seconde Guerre mondiale a été celle d'un rééquilibrage des pouvoirs dans lequel la justice a été non seulement investie d'une autorité de plus en plus affirmée, mais encore dotée des garanties nécessaires à son indépendance. La construction, en effet, était le temps de l'affermissement d'un véritable statut de la justice, protégé par des conseils supérieurs de justice, comme le Conseil supérieur de la magistrature française dès la Constitution du 27 octobre 1946. Elle a conduit à consacrer l'indépendance de la justice dans la Constitution de nombreux pays, comme l'Allemagne et l'Italie notamment. La justice constitutionnelle, qui avait timidement émergé dans l'entre-deux-guerres, a aussi connu un véritable essor en Europe occidentale après 1945, et elle s'est généralisée en 1989, après la chute du communisme. Dans un régime d'authentique séparation des pouvoirs, un juge doit pouvoir faire respecter la loi fondamentale, y compris par le législateur lui-même. Enfin, la création de juridictions internationales, en particulier la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, a contribué à fortifier les justices nationales et la garantie des droits fondamentaux sur notre continent. Le lien consubstantiel entre la séparation des pouvoirs et l'état de droit a une cause. Seule l'indépendance et l'autorité de la justice peuvent permettre à celle-ci d'accomplir la fonction qui est la sienne en démocratie, celle de gardien du pacte social qui s'exprime dans la Constitution et dans la loi. Tel sera mon deuxième point. La mission première de la justice est de trancher des litiges en rendant, au nom du peuple souverain, des jugements sur les cas qui lui sont soumis. C'est cette mission qui distingue fondamentalement la justice des autres pouvoirs qui, eux, sont des pouvoirs d'initiative. La justice remplit en effet son office par suite de sollicitations extérieures qu'elle ne suscite ni n'inspire. Elle ne se prononce que sur des cas particuliers. Et elle rend ses décisions sur la base, d'un côté, de la règle de droit qu'elle ne crée pas mais interprète, et de l'autre côté, des litiges portés devant elle dont elle ne peut se saisir de sa propre initiative. Le juge est en effet tenu par les conclusions et les moyens des parties sans pouvoir statuer, comme nous le disons, ultra petita. Cette mission consistant à trancher en droit les litiges au nom du peuple souverain, le constituant l'a confié à la justice et il lui a donné, dans l'organisation des pouvoirs publics, une autorité particulière, lui permettant non seulement d'assumer concrètement hic et nunc cette mission, mais encore de remplir sa mission de gardien du pacte social. La justice contribue en effet d'abord au maintien de la cohésion sociale. Cette fonction de cohésion est d'abord la conséquence de l'effet cathartique du procès. La justice est une scène institutionnalisée, un théâtre du conflit, un lieu d'expression des passions, mais aussi, in fine, de leur apaisement. Elle est aussi un lieu de dévoilement, un théâtre de la vérité, si du moins l'on ne confère pas au terme de vérité un caractère absolu. La justice révèle aux parties et à la société ce qui est caché et rend intelligible ce qui est complexe. Le procès pénal en est une expression évidente, comme le procès civil ou le procès administratif. Ce dernier confronte l'individu et la société d'un côté et les pouvoirs publics, notamment l'État, de l'autre. Le déroulement même de ce procès, et notamment la présentation que fait à l'audience en toute indépendance le rapporteur public, qui présente les termes du litige et la solution que celui-ci lui paraît devoir recevoir, offre, avec le débat public et contradictoire entre les parties, l'occasion d'une pédagogie approfondie. Au-delà de l'effet cathartique du procès, la fonction de régulation sociale de la justice résulte aussi de ce qu'elle organise, le conflit existentiel de la démocratie. Elle socialise et pacifie la confrontation des intérêts qui, dans un état de nature, conduirait irrémédiablement à la guerre de chacun contre tous. Ce faisant, la justice met en scène le pouvoir, le lien social et le sujet. Elle arbitre des intérêts en empêchant que la victoire des uns ne conduise à l'annihilation des autres. Elle rend ainsi visible l'équilibre fondamental de la démocratie, l'équilibre entre la société et la liberté des individus qui la composent. Si la justice a la garde du pacte social, c'est aussi parce qu'elle est l'ultime gardien des valeurs et des principes que le peuple s'est donné à lui-même par la Constitution et la loi. Elle assure, dans le temps long, la pérennité et l'effectivité des grands principes démocratiques, c'est-à-dire des droits fondamentaux qui s'expriment dans la Constitution et dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme auxquels un État est parti. La justice constitutionnelle est sans doute l'une des expressions les plus abouties de cette fonction, puisqu'elle conduit les juges constitutionnels à écarter, voire à censurer la loi au nom des droits et libertés que la Constitution garantit. Telle est la mission, par exemple, du Conseil constitutionnel français ou de la Cour suprême des États-Unis. La loi ne peut ainsi être, dans notre tradition constitutionnelle, qui a été profondément revisitée, l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Le contraire subvertirait les fondements mêmes de toute Constitution écrite, selon les termes utilisés par le Chief Justice Marshall, président de la Cour suprême des États-Unis, dans son opinion sur le célèbre arrêt Marbury contre Madison du 24 février 1803, par lequel la Cour suprême s'est reconnue le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution des États-Unis. Cette fonction de gardien des valeurs et des principes fondamentaux de la démocratie, tous les juges la remplissent également. Ainsi, en France, tous les juges peuvent faire directement application de la Constitution ou questionner la conformité des lois à ces dispositions. Dans les États monistes comme notre pays, tous les juges peuvent aussi faire directement application des traités internationaux, notamment de ceux qui garantissent les droits fondamentaux, tels que la Convention européenne des droits de l'homme et désormais la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au besoin en écartant les lois qui leur seraient contraires. Les principes généraux du droit dégagés par le juge administratif procèdent aussi de cette fonction de gardien des principes fondamentaux qui incombent au juge. Leur objet étant l'absence de loi, d'imposer à l'administration le respect de normes, comme le respect des droits de la défense, l'égalité d'accès aux services publics ou la non-rétroactivité des actes administratifs. Ces principes généraux du droit sont l'expression d'un pouvoir normatif légitime du juge dans un régime de séparation des pouvoirs. Du fait de sa fonction de gardien des valeurs fondamentales de la démocratie, le juge ne peut en effet se soustraire à son office au prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Il tient nécessairement du constituant la légitimité nécessaire pour interpréter cette loi et, le cas échéant, pour produire des normes qui la suppléent sans toutefois pouvoir la créer. Telle est la fonction de la jurisprudence dont la glorification de la loi peinte par Paul Baudry au plafond de la grande chambre de la Cour de cassation souligne métaphoriquement la place. La jurisprudence lève, certes d'un regard soumis, les yeux vers la loi, qui du haut de son piédestal lui intime son ordre, mais elle n'en est pas moins présente, debout, au premier plan de la scène. Le statut de la justice est la traduction juridique de la fonction de gardien du pacte social qui lui est assignée dans un régime de séparation des pouvoirs. Comme le dit l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la force publique, ce statut n'est pas institué pour l'utilité particulière des juges, mais pour l'avantage de tous. Il doit permettre à la justice de disposer de l'indépendance et de l'autorité nécessaires à l'exercice plein et entier de sa fonction. L'objet du statut est d'abord de faire en sorte que l'action légitime des autres pouvoirs à l'égard de la justice ne conduise pas à remettre en cause sa fonction de gardien que le constituant lui confie. Le statut protège donc l'indépendance et les compétences fondamentales des juridictions. Tel est le sens de la mention aux articles 64 et 66 de notre Constitution, de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de sa fonction de gardienne de la liberté individuelle. Tel est aussi le sens de la reconnaissance, au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, de l'indépendance et des compétences essentielles de la juridiction administrative de notre pays. En Allemagne, le titre 9 de la loi fondamentale du 23 mai 1949, relatif au pouvoir judiciaire, définit précisément les compétences de la Cour constitutionnelle fédérale et celles des cours suprêmes fédérales. L'article 101 de cette même loi range en outre le droit au juge légal parmi les principes fondamentaux de l'organisation des pouvoirs. Au Royaume-Uni, si la question des compétences des juridictions se pose de manière différente, l'indépendance de la justice est également garantie, même en l'absence de constitution écrite, par une coutume suffisamment forte et ancienne pour avoir elle-même valeur constitutionnelle. C'est d'ailleurs par une loi dénommée Constitutional Reform Act qu'a été créée, en 2005, la Cour suprême du Royaume-Uni, en lieu et place de l'ancienne Appellate Committee de la Chambre des Lords. Qu'il soit issu de dispositions explicites de la Constitution ou de dispositions législatives, ou qu'il procède, comme au Royaume-Uni ou à mains égards pour le Conseil d'État de France, d'une coutume, le statut protège aussi chaque juge des influences que pourraient exercer sur lui les autres pouvoirs, en particulier le pouvoir exécutif. Tel est le sens du principe d'inamovibilité des juges pendant l'exercice de leur mandat et de l'interdiction universelle dans les États de droit de leur adresser des injonctions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. À côté de l'indépendance, le statut garantit également que la justice dispose de l'autorité nécessaire à l'exercice de sa fonction de gardien du pacte social. L'impartialité relève, à l'évidence, des principes fondamentaux de ce statut, que ce soit dans sa dimension subjective, c'est-à-dire l'exigence d'impartialité personnelle qui est inhérente à la fonction de juger, ou dans sa dimension objective, c'est-à-dire la nécessité pour la justice de manifester au justiciable qu'elle est impartiale. Elle offre aux partis et à la société l'assurance que la solution d'un litige et les principes rappelés ou dégagés par le juge résultent bien du pacte fondamental et non des intérêts particuliers que la personne du juge pourrait avoir à la solution d'un litige. Elle contribue donc à la fonction de cohésion sociale et de gardien des valeurs dévolues à la justice. Les garanties qui entourent la nomination des juges participent elles aussi de l'indépendance, de l'impartialité, mais aussi de la compétence des juges et donc de l'autorité de la justice. Les principes directeurs du procès, le principe du débat contradictoire, le caractère public de la justice et l'égalité des armes notamment, contribuent également à la fonction de régulation sociale de la justice. Ils assurent l'équité et l'impartialité des procédures juridictionnelles, donc le crédit de la justice rendue, et permettent à celle-ci de remplir pleinement son office, à la fois juridique et sociale. Les principes qui gouvernent la justice manifeste sa différence essentielle par rapport aux autres pouvoirs. Il consacre en effet le principe d'autonomie par rapport au sujet traité dans lequel Aristote fondait l'idée de la justice. Il n'y a de justice que dans la bonne mise à distance du juge et des parties, du juge et du litige. L'indépendance et l'autorité sont donc au cœur de la fonction de la justice dans un état de droit. Il est dès lors de la responsabilité des trois pouvoirs de les sauvegarder. Tel sera mon troisième point. La question de la limite des influences légitimes de chacun des pouvoirs sur l'autre est cruciale. Ces limites doivent trouver leur source dans la Constitution et dans la loi, et elles impliquent une vigilance particulière et une stricte retenue dans la pratique de chacun des pouvoirs. Elles impliquent en somme des devoirs qui sont autant de responsabilités pour la justice d'une part et pour les autres pouvoirs d'autre part. Les devoirs de la justice dans un régime de séparation des pouvoirs reposent à la fois sur l'institution juridictionnelle dans son ensemble et sur chaque juge. Tous deux doivent d'abord respecter la fonction même que le souverain leur confie, celle de gardien du pacte social. Pour l'institution juridictionnelle, cela se traduit par un impératif, celui de ne pas céder à la complexité du droit, ni à la pression du temps court, celle des changements fréquents de normes, des soubresauts politiques et des fluctuations de l'opinion. Les devoirs de l'institution juridictionnelle dans sa fonction de gardien sont donc un devoir de cohérence et, dans les temps exceptionnels, un devoir de résistance. Le devoir de cohérence est au cœur même de la garantie des droits. Il s'applique, bien sûr, à la jurisprudence. Celle-ci doit éviter les contradictions et les revirements fréquents, imprévus ou aléatoires. Elle doit s'attacher à préserver la sécurité et la stabilité des situations juridiques. Elle doit veiller à ordonner l'application de normes de plus en plus profuses, parfois obscures et contradictoires. Ce devoir de cohérence procède aussi de la coexistence de systèmes juridiques différents, certes indépendants, mais proches les uns des autres et en interaction permanente. L'un des traits du système français de séparation des pouvoirs est qu'il est fondé sur une pluralité d'ordres de juridiction indépendants, constitutionnels, administratifs et judiciaires. La légitimité de cette organisation réside dans le principe de spécialité qui est un atout pour l'efficacité du contrôle juridictionnel et donc pour la garantie des droits. Mais la spécialisation implique aussi une responsabilité plus grande pour les juridictions, a fortiori, dès lors que se superposent à l'ordre juridique interne deux ordres juridiques européens, celui de l'Union européenne et celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Il appartient à chaque juge, et plus encore à chaque juridiction suprême, de contribuer à mettre en harmonie les différents systèmes juridiques dans lesquels ils s'inscrivent. Quand un même principe est garanti à la fois en droit interne et par un engagement international de protection des droits de l'homme, il est ainsi souhaitable qu'un juge suprême ne s'éloigne pas sans motif grave de l'interprétation donnée de ce principe par les autres juges, qu'il s'agisse du juge constitutionnel, des juges européens ou des autres juges suprêmes nationaux. En temps de crise grave, le devoir de résistance impose aux juridictions de continuer à être les gardiens vigilants du pacte social et de la démocratie. Lorsqu'une société est confrontée à la régression massive des droits et des libertés, voire plus encore à la négation de la personne humaine, les juridictions ont le devoir de rappeler les exigences et les fondements de l'état de droit. L'impuissance de la justice ne peut être compensée par l'héroïsme individuel d'un petit nombre de juges tel qu'il se manifesta aux heures les plus sombres de notre histoire. Les devoirs personnels du juge vis-à-vis de sa fonction de gardien du pacte social sont quant à eux des devoirs de retenue. Chaque juge doit respecter la nature même de la mission juridictionnelle qui lui est confiée et tout autant les principes fondamentaux de la justice. Rendre la justice, ce n'est pas faire justice. Le juge ne saurait ainsi se faire justicier, sauf à faillir à sa mission et trahir son devoir d'impartialité. Rendre la justice, c'est aussi reconnaître que le juge n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement ou le gouvernement. Tel est le sens de la notion de déférence judiciaire sur laquelle se fondent les juges anglo-saxons pour marquer les limites du contrôle qu'ils exercent sur la loi ou l'administration, dont le pouvoir discrétionnaire se trouve protégé sans doute plus largement qu'en Europe continentale et en France. Tel est aussi le sens de la réserve qu'exprime le juge constitutionnel français sur l'action du législateur. Telle est aussi la pratique du juge administratif français. Son contrôle est particulièrement approfondi, mais il s'arrête là où commence l'appréciation en opportunité d'une décision. Toutefois, la séparation des pouvoirs ne saurait avoir pour effet de garantir une immunité au législateur, à l'exécutif ou à leurs représentants. La retenue du juge doit aussi le conduire à respecter pleinement par son comportement les principes d'indépendance et d'impartialité que j'évoquais. Cela implique qu'il s'abstienne d'exercer ses fonctions juridictionnelles lorsqu'il estime qu'il pourrait ne pas être indépendant ou impartial ou être perçu comme tel par les justiciables. La retenue du juge, c'est aussi son devoir de réserve dans l'expression publique et dans ses relations qui n'obère ni sa liberté d'opinion, ni sa liberté individuelle, mais qui lui impose une pratique vertueuse, ne pas se mettre en situation d'être suspecté d'une proximité trop grande, voire de complaisance, avec les autres pouvoirs publics ou les pouvoirs de fait que sont des groupes politiques, économiques et sociaux ou encore des médias. L'indépendance du juge ne saurait non plus être dénaturée par le corporatisme et conduire à s'opposer à l'action légitime des autres pouvoirs sur la justice. Les devoirs de l'institution juridictionnelle et du juge sont aussi des devoirs vis-à-vis de la société qu'il contribue à réguler. Pour l'institution, il s'agit avant tout de rendre une justice de qualité, concourant autant à l'autorité de la justice qu'à la confiance que les citoyens lui portent. La célérité est une composante de cette qualité et elle participe du droit au procès équitable. Les décisions de justice doivent être rendues dans des délais raisonnables, compatibles avec la situation concrète des justiciables et adaptées à l'urgence. La qualité prend aussi en compte l'accessibilité de la justice et la transparence des procédures juridictionnelles et des informations. La qualité, c'est encore l'intelligibilité des décisions de justice. La lecture d'une décision ne doit pas s'apparenter à une course d'obstacles sémantiques pour le justiciable, le plus souvent non rompu aux arcanes du vocabulaire contentieux. Les devoirs personnels du juge vis-à-vis de la société sont à la fois la compétence, l'ouverture et la responsabilité. La compétence, car autant que l'impartialité, l'autorité de la justice repose sur le respect scrupuleux de la rigueur dans le raisonnement juridique et dans la direction du procès. L'ouverture, car le juge ne saurait se tenir à l'écart de la société. Il en va de la fonction même de régulation sociale qui lui est dévolue. Elle suppose que les décisions de justice soient non seulement fondées en droit, mais encore pertinentes et applicables. Elle implique que ces décisions sachent prendre en considération les enjeux économiques, sociaux, voire politiques, sur lesquels elles sont susceptibles d'avoir une incidence. Elle postule que le juge sache mesurer et assumer les conséquences des décisions qu'il rend. Quant à la responsabilité, elle est un fondement de la démocratie et de la vie sociale, et les juges ne sauraient s'y soustraire. Leurs fautes disciplinaires doivent par suite, bien sûr, être sanctionnées. Quant à leur activité juridictionnelle, elle ne peut en principe être contrôlée que dans le cadre de l'exercice des voies de recours, appel, cassation ou révision. Mais dans des circonstances exceptionnelles, la responsabilité personnelle des juges doit pouvoir être mise en cause du fait de cette activité juridictionnelle, sous réserve que soient prévues de strictes garanties prévenant tout risque de confusion entre l'office du juge disciplinaire et celui des juges d'appel ou de cassation. Ainsi que le juge le Conseil constitutionnel français, cette responsabilité ne peut être encourue que dans le cas d'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties et sous réserve que cette violation ait elle-même été constatée par une décision de justice devenue définitive. Préserver la séparation et l'équilibre des pouvoirs implique aussi que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif reconnaissent pleinement l'indépendance et l'autorité de la justice. Leur responsabilité à cet égard se traduit par un ensemble cohérent d'obligations positives et d'obligations négatives ou d'abstention. La première des obligations positives de ces pouvoirs est de fixer le cadre normatif de l'activité juridictionnelle et d'allouer à la justice les moyens nécessaires à son fonctionnement dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l'indépendance des juridictions. Il est aussi nécessaire de donner une portée effective au principe du droit au juge légal pour fonder sur des bases objectives la compétence et la composition des juridictions et surmonter la tentation de tout prince de choisir son juge. Le pouvoir exécutif doit de son côté prendre les mesures nécessaires à l'organisation du service public de la justice en respectant l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Il doit prendre également, si tel est le choix du constituant, les mesures individuelles en lien avec la carrière des juges, nomination, avancement, mutation, tout en respectant les règles et les procédures qui encadrent son appréciation, comme le principe d'inamovibilité, la consultation des conseils supérieurs qui garantissent l'indépendance de la justice, ou le respect de l'avis conforme de ces mêmes organismes. Le pouvoir exécutif a un autre devoir, celui d'assurer l'exécution des décisions de justice. Ce devoir relève des principes fondamentaux du droit au procès équitable. Il implique d'apporter un concours à l'exécution de ces décisions, au besoin par la force publique, mais aussi de respecter effectivement la chose jugée ou ordonnée à son encontre, y compris à titre provisoire. La première des obligations négatives ou d'abstention qui pèsent sur les pouvoirs exécutifs et législatifs est de ne pas abuser des prérogatives légitimes dont ils disposent sur la justice. Les freins et les contrepoids, checks and balances, propres au système de séparation des pouvoirs, implique que le droit du juge de censurer, dans l'exercice de sa mission, les actes du pouvoir exécutif ou du législateur, a pour contrepartie le droit du constituant ou du législateur d'intervenir dans l'exercice même de la fonction juridictionnelle. Tel est le sens notamment des lois de validation ou de ce que le doyen Vedel nommait le lit de justice constitutionnelle quand le constituant reprend la main après la censure d'une loi. L'exercice de ce droit ne peut néanmoins conduire le souverain à empiéter sur l'indépendance et l'autorité de la justice au point de porter une atteinte disproportionnée à la séparation des pouvoirs. Cette exigence forte a conduit à ce que la Cour européenne des droits de l'homme et en France le Conseil constitutionnel encadre strictement le pouvoir du législateur de valider des applications illégales ou incorrectes de la loi. Une telle validation doit toujours respecter l'autorité de la chose jugée et en outre procéder d'impérieux motifs d'intérêt général. Ces limites imposent aussi par ailleurs que ni le constituant ni le législateur ne puissent revoir l'organisation des juridictions ou les garanties statutaires des juges pour des motifs partisans, pour sanctionner le mal fondé réel ou supposé d'une décision de justice ou pour tenter d'influencer la solution d'un litige ou le sens d'une jurisprudence. Force est de reconnaître malheureusement que ces tentations et ces pratiques n'ont pas disparu de notre continent, comme le montrent plusieurs exemples d'États européens, dont la France, au cours de la dernière décennie. Le constituant ne devrait pouvoir ainsi réduire de manière drastique l'âge de départ à la retraite des juges, avec pour conséquence le renouvellement presque total des magistrats siégeant dans les plus hautes juridictions. Il ne saurait non plus priver une Cour constitutionnelle d'une partie importante de ses pouvoirs en réaction à une décision de justice. Il ne devrait pas davantage subordonner la garantie d'inamovibilité des juges à l'exercice préalable de leurs fonctions pendant une durée anormalement longue. Ce sont des exemples que je cite et qui correspondent à des situations réelles. Le législateur, quant à lui, ne peut prétexter d'une crise économique grave pour réduire de manière drastique le traitement des seuls juges ou de certains d'entre eux, ceux d'une Cour constitutionnelle, par exemple. Il ne saurait non plus accroître le nombre des membres d'une Cour suprême sans nécessité avérée, mais seulement pour diluer des juges supposés rebelles. Encore des cas concrets. Le législateur ne peut non plus, au nom de la bonne administration de la justice, modifier l'organisation d'une juridiction, ni a fortiori supprimer une formation de jugement qu'il vient de créer afin de sanctionner cette juridiction ou d'influer sur le sens des décisions de justice qu'elle pourrait être amenée à prendre. La loi du 1er mars 1899, qui a dessaisi des recours en cassation, des recours en révision, la chambre criminelle de la Cour de cassation, en pleine affaire Dreyfus, est un précédent fâcheux qu'il faut, par principe, se garder de réitérer. Chez nous, comme hors de nos frontières, le législateur et le pouvoir exécutif ne sauraient non plus user, dans un but illégitime, de l'autorité qu'ils tirent de la Constitution. L'exécutif, qui, dans la répartition des pouvoirs, dispose de manière presque exclusive du monopole de la parole immédiate, ne peut ainsi employer son pouvoir de communiquer pour critiquer publiquement ou a fortiori jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, ainsi d'ailleurs que le prohibe expressément notre code pénal. Cette obligation négative est la contrepartie minimale de la déférence judiciaire que j'évoquais. Des décisions de justice doivent être respectées par tous. L'indépendance et l'autorité de la justice exigent aussi des autres pouvoirs qu'ils fassent preuve de la même retenue qui s'impose à la justice envers eux. Des avertissements feutrés voire les menaces directes ou voilées. En un mot, les pressions n'ont pas leur place dans un régime de séparation des pouvoirs et ne peuvent qu'être flétries, n'y ont pas davantage leur place. Les lois d'amnistie, qui de manière directe ou masquée, ne visent en réalité qu'à couvrir, pour des motifs étrangers à l'intérêt général, les agissements d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Il en va de même des lois qui, alors qu'une procédure juridictionnelle est en cours, ouvriraient aux parties la faculté de récuser leur juge pour cause de suspicion légitime afin de retarder l'issue d'un procès, ou encore de lois qui instaureraient des immunités pour des catégories très restreintes de personnes poursuivies ou qui réduiraient les délais de prescription de telle sorte qu'une ou plusieurs personnes en bénéficient. Je vise à chaque fois des situations parfaitement concrètes et identifiées. En cours le même désaveu, les mises en garde ou les appels au sens des responsabilités notifiés à des juges, voire des chefs de juridiction suprême, dûment convoqués par de hauts représentants de l'exécutif avant le jugement d'affaires sensibles, ou encore les réprimandes qui leur sont adressées a posteriori par les mêmes personnes si les décisions rendues ont déplu. Toutes ces ingérences et ces interférences dans le cours de la justice, aussi blâmables que vaines le plus souvent, mettent à l'épreuve la séparation des pouvoirs et la solidité du pacte constitutionnel. De ce point de vue, l'histoire des dernières décennies, qui a été marquée par d'éclatants progrès en Europe, n'est pas pleinement rassurante. Pour exceptionnelle qu'elle soit, la figure du juge que l'on tente de séduire, intimider ou déstabiliser subsiste sur notre continent. Mais aussi fâcheux soit-il, ces abus et ces dérives ne sauraient ni porter atteinte à la sérénité globale des relations entre la justice et les autres pouvoirs, ni entamer la confiance que les citoyens peuvent et doivent placer dans la justice. Les devoirs de chacun des pouvoirs envers les autres forment un pacte, et plus qu'un pacte, une promesse et un serment qui prolonge et amplifie celui qui fut prononcé en ces lieux par Bailly le 20 juin 1789 au nom des 578 députés du tiers état rassemblés, le serment de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Fin de citation. Comme le serment du jeu de paume, le pacte qui rassemble les trois pouvoirs est un acte fondateur, celui de la démocratie et de l'état de droit. Mais il est un pacte fragile. Sa pérennité repose sur la responsabilité de tous, celle de chacun des pouvoirs, la justice, le législateur et le pouvoir exécutif. La responsabilité aussi de chacun des citoyens et de la société dans son ensemble. Cette responsabilité, nous devons l'assumer collectivement pour préserver les valeurs et les principes que le peuple souverain s'est donnés et qui sont gravés dans notre Constitution. Les engagements européens et internationaux auxquels cette Constitution nous permet de participer et donne une autorité particulière contribuent aussi à la défense de ces valeurs et principes que nous avons en partage avec le reste de l'humanité. Ils nous ouvrent de nouveaux horizons vers l'universel et ils constituent de précieux points d'appui et d'utiles cordes de rappel pour maintenir dans la durée et fortifier ce qui reste pour nous un legs et une promesse, c'est-à-dire l'édification des démocraties et de l'état de droit, qui sont les meilleurs garants des libertés, de la cohésion de la société, d'un fonctionnement efficace et harmonieux des pouvoirs publics et peut-être aussi, d'ailleurs, d'un monde où la paix et le bonheur auraient davantage droit de cité. Je vous remercie.
Bien, nous allons procéder maintenant, comme ce matin, je vais tout de suite passer la parole à Jean Golzing pour changer de registre en même temps et que les questions qui pourront se poser ensuite tiennent compte des deux. Donc je vais présenter maintenant Jean Golzing. Il est ancien professeur à l'École normale supérieure. Nous l'avons invité à cause d'un livre qui s'appelle « La solitude de Montesquieu », Fayard, 2011. Il était ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de l'université. Il a été maître de conférences en littérature française à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, Fontenay, puis Lyon, à l'Institut d'études politiques de Paris aussi, spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle, éditeur et commentateur des auteurs de cette époque, Montesquieu, Beaumarchais, Diderot, Marivaux, Voltaire, etc. Donc je passe la parole maintenant à Jean Golzing pour nous parler de ce que Montesquieu a dit ou n'a pas dit ou a vraiment dit.
Oui, alors ce titre qui peut paraître très alléchant, bon, ce que Montesquieu a vraiment dit n'est pas de moi, il m'a été proposé et je l'assume à mes risques. Pourquoi des risques? Parce qu'il ne me semble pas vraiment aisé de dire ce que Montesquieu a vraiment dit avec à propos de la séparation. Alors mon postulat de lecture est le suivant. Il consiste à tenter au maximum de replacer les considérations sur la séparation des pouvoirs dans la logique cardinale de l'esprit des lois qui nous renvoie au paragraphe 1 de l'ouvrage. Vous savez que, vous vous souvenez que Auguste Comte considérait que ce paragraphe 1 était à la fois génialissime et le seul correct de tout l'ouvrage, le reste étant à jeter aux orties, non pas en raison du manque de talent de Montesquieu, mais en raison de l'état pas assez avancé des sciences de la nature et notamment de la biologie à son époque. Alors, comme Yves Michaud m'a également demandé, il ne m'a pas seulement proposé le titre, il m'a également demandé de faire vite, donc je vais essayer de faire vite à travers 6 points terriblement elliptiques. Et je pense que ce côté elliptique ajouté au postulat que je viens de dire devrait susciter des contestations que j'espère les plus vigoureuses possibles. Alors, les exposés précédents l'ont démontré de manière éclatante. La réputation actuelle de Montesquieu est de toute évidence attachée à la loi de séparation, division, distinction des trois pouvoirs, c'est-à-dire au chapitre 6 du livre 11 sur l'Angleterre. Ce chapitre est une telle icône de la réflexion politique que le commentaire en devient extrêmement difficile et intimidant. De cette canonisation découle, me semble-t-il, je ne crois pas me tromper, la figure de Montesquieu en père du libéralisme politique aux côtés de Locke. Je crois qu'il suffit de lire n'importe quelle histoire du libéralisme pour voir qu'il figure glorieusement à côté de ce dernier. Alors, est-ce une représentation exacte? Voilà la question que je voudrais esquisser ici. Dans ce fameux chapitre, Montesquieu pose qu'il existe partout trois pouvoirs et qu'il faut saisir la liberté politique à travers son exemple, à travers l'exemple anglais. Cet exemple anglais saisi dans sa logique idéale et non pas dans son fonctionnement effectif prouve qu'on obtient le maximum de liberté réglée, c'est-à-dire modérée, en divisant ces trois pouvoirs par trois. Soit à Londres un parlement à deux chambres, dont une élue, un exécutif royal et une justice à jury temporaire. Mais on a aussi de la liberté, quoique moindre, en divisant par deux plus un, comme en France, où, dit Montesquieu, la justice revient au sujet du roi. Le mot sujet est celui de Montesquieu. Enfin, le despote concentre les trois pouvoirs. On devrait donc en conclure que l'esprit des lois nous propose bien, comme le dit la tradition depuis longtemps, nous propose bien la clé anglaise de la bonne constitution, celle qui vise la liberté maximale grâce à la modération réciproque des trois pouvoirs. Il s'agirait, programme en son fond lockéen, de républicaniser le législatif par l'élection en tout ou partie, hein, républicaniser le législatif par l'élection et de maximiser la liberté par la division ternaire. Bien ça, le cœur hein, du modèle anglais. Pourtant, Montesquieu ajoute aussitôt, dans le même mouvement, qu'il reste encore une part de liberté dans des républiques italiennes sans aucune division des pouvoirs. Ce paradoxe, apparemment bizarre, tient, dit Montesquieu, à la multiplicité des magistrats dans ces républiques, c'est-à-dire à une espèce de substitut, hein, de substitut timoré, imparfait, de la division à l'anglaise ou à la française. Mais il me semble, et ça sera ma ligne directrice, mais il me semble que le lecteur, comme toujours dans l'esprit des lois, doit aussi comprendre, en dépit du laconisme habituel de l'auteur, que joue également, dans la production de cette part de liberté dans des républiques sans aucune division, que joue également l'action substitutive d'autres lois-rapports, par exemple le climat européen, le christianisme, la taille du pays, le type économique, le passé de chacun de ces États, etc. Je rappelle, parce que c'est souvent oublié, que le despotisme lui-même ne peut se conserver tout seul de par sa nature et son principe. Il lui faut absolument, pour durer, pour se conserver, des apports supplétifs. Mon deuxième point est le suivant. On ne saurait prendre les trois pouvoirs pour de purs organes institutionnels à manipuler en virtuose ex-constitution comme 89 les a fait rapidement éclore en France. Pourquoi ? Parce que ces trois pouvoirs cristallisent en réalité des rapports de force sociaux, des intérêts collectifs divergents. C'est en ce sens que Auguste Comte, repris à juste titre par Raymond Aron, faisait de Montesquieu le pré-sociologue par excellence. C'est pourquoi, dans son analyse du système du régime anglais, Montesquieu accorde aux nobles anglais le droit à une chambre séparée et à des modes judiciaires spéciaux. Sauf, dit-il, à les faire souffrir dans leur liberté, sous le coup de l'envie populaire, envie populaire qui a comme organe les institutions législatives et judiciaires d'esprit républicain et par conséquent égalitaire. Même dans le despotisme qui est un égalisateur forcené, la terreur née de l'indivision et de l'absence de loi fixe menace bien davantage les grands, dit Montesquieu, que le peuple. Techniquement, il vaut mieux parler de division ou distinction que de séparation, car l'exécutif anglais, on l'a déjà dit précédemment, a un droit de veto sur le législatif, décide de la tenue des sessions, tandis que les législateurs sont interdits d'empêcher l'exécutif d'agir. Ils peuvent examiner a posteriori l'exécution des lois sans juger de la personne du roi rendue sacrée pour interdire toute tyrannie du législatif. Mais ils peuvent aussi, dit Montesquieu, en trois occasions qui font exception à la division, avoir à juger des personnes. Droit, dit-il, qui est réservé au Lord. Donc entre le roi et le peuple. Bref, la division ne peut modérer qu'en liant l'exécutif et le législatif, le mot lié est dans le texte, lui-même lié, législatif lui-même lié par sa division en deux chambres. Au plan constitutionnel, la liberté repose en Angleterre sur les deux premiers pouvoirs, en monarchie pure continentale sur le judiciaire dont il me semble alors que dans le système continental, le pur régime monarchique, il ne saurait absolument pas être nul. Bon, en discuter. Je crois que la nullité ne s'applique qu'à l'Angleterre, me semble-t-il. Mais bon. Conceptuellement, la triple fonctionnalité inhérente à toute souveraineté est une nature des choses universelle. La nature des choses, c'est la définition même de la loi. C'est le fondement de la loi rapport, paragraphe 1 de l'esprit des lois. De cette nature des choses universelle dérive, paragraphe 1 toujours, dérive directement trois lois rapport possibles par rapport à la liberté. La division par trois réservée à l'Angleterre, exception unique. La division par 2 plus 1 de la monarchie moderne, monarchie pure, continentale, la seule véritable monarchie, régime monarchique, puisque le régime anglais est monarcho-républicain, l'indivision despotique qui est freinée dans des républiques européennes par divers facteurs. Troisième point, la division anglaise, si ce que je viens de dire a quelque justesse, la division anglaise n'est donc ni une loi techniquement nécessaire à la liberté, ni une norme politique à imiter. Dans l'esprit des lois, pas dans l'absolu, dans l'esprit des lois. En toute logique, en effet, une telle imitation est pour Montesquieu non seulement impossible, mais inadéquate. Impossible en raison de la nature des choses, qui rend intransportable l'articulation des 13 rapports, livre 1, chapitre 3, l'articulation des 13 rapports propres à toute société. Et d'où découle, et de cette articulation des 13 rapports, découle le type de division des pouvoirs ici ou là. Inadéquate, puisque les rapports découlent de la nature des choses, inadéquate, car la monarchie pure continentale fournit une liberté politique modérée tout aussi valable que l'extrême liberté anglaise dont je vous rappelle que Montesquieu dit explicitement qu'elle est elle aussi vouée au danger de despotisation, mais cette fois-ci, nature des choses, par débordement populaire et non pas par débordement royal comme sur le continent. En d'autres termes, Montesquieu ne prône pas la républicanisation européenne de la liberté, faute de pouvoir penser, en raison même de sa méthode, son universalisation, ni même son européanisation. Il n'existe pas pour lui de droit individuel inaliénable à la liberté. Droit d'élire le législateur, droit de résister aux tyrans, droit à la liberté religieuse. Même là où les conditions de la liberté existent, en Europe, et éventuellement, dit-il, en Amérique, il a vu que c'est trop tôt pour conclure, la liberté n'implique pas une souveraineté du peuple de type lockéen, avec état de nature fondateur de droits possessifs, contrat de sortie qui conserve le maximum de ses droits naturels, représentation élective du peuple, droit de changer toute forme politique pour la souveraineté populaire, droit de résister à la tyrannie. Quatrièmement, on a par conséquent, me semble-t-il, fortement tordu le sens du livre 11 pour l'aligner sur l'exception anglaise et les révolutions américaines et françaises. Mais ce n'est pas le seul faux sens, à mon avis. Car enfin, après le livre 11, vient le livre 12, bien moins glorieux dans la tradition interprétative et la science politique. Quelle est leur différence? Si le premier, le livre 11, traite du rapport, c'est son titre, entre liberté politique et constitution, c'est qu'il se rattache à la sphère de la nature du gouvernement. Or, est-il de bonne méthode d'oublier leçon constante de l'esprit des lois que la nature du gouvernement importe moins dans la hiérarchie de ces deux rapports, importe moins que le principe du gouvernement. C'est répété ce qui est affirmé dès le chapitre 3 du livre 1 et constat, et qu'on peut lire à livre ouvert dans la répartition des livres, dans leur titre. Et de fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le livre 12 s'attache bien à ce qui compte le plus, c'est-à-dire, je paraphrase, le sentiment subjectif de la liberté, c'est-à-dire le rapport de la liberté non plus à la Constitution, mais le rapport de la liberté au sentiment vécu par les citoyens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sentiment subjectif de la liberté? Montesquieu le définit comme un affect collectif de sécurité, de tranquillité intérieure, soit très exactement l'opposé de la peur despotique, c'est-à-dire le principe despotique. Et c'est bien pourquoi c'est un principe de liberté. Et il ajoute que ce principe de gouvernement, ce principe de liberté n'est pas lié mécaniquement à la division constitutionnelle, puisqu'il peut exister là où il n'y a pas la fameuse division, le texte le dit explicitement. Il apparaît dès lors que l'affect primordial de sécurité, primordial dans la hiérarchie des rapports posé dans l'esprit des lois au chapitre 3 du livre 1, l'affect primordial de sécurité dépend moins de l'organisation institutionnelle des trois pouvoirs que de l'exercice de la justice. Cinquième point, avant-dernier. Pourquoi ce fait? Pourquoi le problème de la justice est-il fondamental pour l'affect de sécurité, pour l'affect de tranquillité, principe de liberté, qui peut être déconnecté de du mode de division, et qui fait que la monarchie, au fond, la monarchie pure, a autant de valeur que le régime anglais? Bien, exact. Très précisément en raison de la nature des choses. Qui veut que chaque individu souffre plus faiblement des deux autres pouvoirs, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, que du troisième pouvoir, c'est-à-dire des jugements pénaux, des lois criminelles, aptes à menacer chaque individu constamment dans ses biens, son corps, sa réputation, ce que Locke appelait les propriétés. Or, la pure monarchie continentale ne souffre là d'aucune infériorité constitutive, puisque, dit Montesquieu, elle est dévolue au sujet du roi. Division par 2+1. De plus, ajoute Montesquieu, s'il est impossible de transférer une constitution d'un pays dans l'autre, en raison de l'articulation des 13 rapports qui la déterminent, qu'il est absolument impossible de faire aller d'un pays à l'autre, il reste permis et souhaitable, dit solennellement Montesquieu, et on en comprend l'enjeu, il est permis, il est recommandé de perfectionner les lois pénales. Donc on ne peut pas perfectionner une constitution qui est le produit de 13 rapports articulés, mais il est permis et souhaitable de perfectionner les lois criminelles. Ainsi considéré dans le rapport primordial au principe, c'est-à-dire à la subjectivation, c'est-à-dire aux passions collectives rectrices de tout type politique, de toute société politique. Le troisième pouvoir jouit, selon Montesquieu, de deux particularités. D'abord, il pèse plus lourd que les deux autres sur la liberté en tant qu'affect de sécurité apte à effacer la peur despotique, la crainte despotique. Et ensuite, il se prête aux améliorations techniques, y compris par imitation, importation. Il en découlerait que la séparation capitale serait moins entre les trois pouvoirs qu'entre la puissance judiciaire et les deux autres. En raison de quoi ? En raison de la nature des choses, d'où dérivent les divers rapports à la liberté. Et je vous rappelle que ces rapports à la liberté en Angleterre, ils sont examinés non seulement au livre 11, mais au livre 19, dans le rapport des lois aux mœurs et aux manières, et où apparaît alors la question des partis en Angleterre. Je ne crois pas que Montesquieu imagine un seul instant qu'on va introduire des partis dans la monarchie continentale issue de la monarchie pure issue des invasions barbares. Mais évidemment, il faut constamment avoir à l'esprit, me semble-t-il, pour une lecture correcte, que d'autres rapports interviennent dans la liberté anglaise. Quels sont ces rapports qui fondent en même temps aussi la liberté anglaise ? Le climat nord-européen par rapport au climat du sud de l'Europe, les mœurs des peuples nordiques, l'insularité anglaise, qui est un élément du climat, parce que Montesquieu entend par climat, c'est-à-dire les conditions terrestres, physiques du globe, qui sont au fondement de la liberté, et l'insularité est analysée dans l'esprit des lois comme fondement de l'indépendance. Le tempérament anglais, spécifique du peuple anglais, qui n'est pas le tempérament français, livre 19 de l'Esprit des lois, et évidemment les partis politiques et leur lutte, analysés au livre 19, etc. Alors, cette superbe construction intellectuelle me semble obéir à une finalité drastique. Quel est son but ? Je crois qu'elle permet, à l'évidence, d'intégrer à plein la monarchie pure, continentale, dans l'ère de la liberté moderne issue des invasions barbares, ce que la doctrine du droit naturel lockéen, droit naturel à élire tout ou partie du législatif, interdit, sans parler des autres droits naturels déjà évoqués. Or, ce déport vers le judiciaire joue aussi à fond dans une question absolument brûlante de l'Ancien Régime, la question de la tolérance. Au droit intangible à la liberté de conscience, quel qu'en soit le fondement chez Locke ou chez Bell, Montesquieu, à ce droit intangible à la liberté religieuse, Montesquieu substitue le conseil purement prudentiel d'une dépénalisation des délits religieux, livres 24 et 25, sur la religion. Sixième et dernier point, la canonisation de la loi de division des trois pouvoirs par trois, selon l'exception anglaise, semblerait par conséquent reposer en partie sur une distorsion de la logique cardinale de l'esprit des lois. Il me paraît que Montesquieu a voulu penser sans Locke, d'où la fameuse épigraphe de l'esprit des lois, parce que s'il pense dans le sillage de Locke, comme le disent toutes les histoires du libéralisme, je ne vois pas comment on peut rendre compte de la fameuse épigraphe de l'esprit des lois. Un enfant procréé sans père. Il a voulu penser sans droit de l'homme et du citoyen. Je demande qu'on me montre où il y a un droit de l'homme et du citoyen dans l'esprit des lois. En quête des lois immanente et cohérente de mondes sociétaux hétérogènes, hétérogénéité qui me paraît, chapitre 1 du livre 1, refléter la pluralité ontologique posée d'emblée du cosmos. En interprétant tenacement le chapitre 6 du livre 11 comme un idéal normatif et non comme un exemple unique et extrémiste qui permet une analyse de la liberté. On a embarqué l'auteur, pour son plus grand profit posthume, bien entendu, dans le train des libertés libérales, et l'unanimité se fait dans tous les camps idéologiques sur ce point, en France, dès la première moitié du XIXe, c'est l'objet de mon livre. Cette démarche suppose le refoulement de trois faits majeurs. 1. La subordination de la nature du gouvernement, livre 11, au principe, livre 12. 2. Le déséquilibre des pouvoirs en faveur du judiciaire, de par la spécificité de ce dernier au regard de la liberté, ce qui s'appelle tout simplement, me semble-t-il, la nature des choses où dérive toute loi rapport, paragraphe 1 de l'esprit des lois. Troisièmement, encore plus décisive, l'articulation obligée des 13 rapports, interconnexion qui est seule à même d'expliquer, par exemple, aux yeux de Montesquieu, la localisation européenne de la liberté, la suprématie continentale de la monarchie pure par rapport au régime mixte anglais, l'immuable conservation paradoxale du despotisme, le fondement non juste naturaliste de la tolérance et de la liberté. La pulsion qui a transformé l'analyse de Montesquieu en dogme constitutionnaliste est au moins triple elle aussi. Premièrement, la double modalité de la division des pouvoirs par 3 ou 2, au bénéfice de la liberté modérée européenne, a été ramenée à une seule, l'anglaise, très rapidement. Deuxièmement, le double rapport à la liberté vient d'abord la Constitution, livre 11, ensuite via la justice comme source primordiale d'affects sécurisants antidespotiques, livre 12, attendu à s'inverser au profit du plan constitutionnel, pourtant moins décisif, me semble-t-il, au regard de la logique constante de l'ouvrage telle qu'elle est définie programmatiquement au chapitre 3 du livre 1. Troisièmement, l'exclusivité européenne de la liberté tant antique que moderne, produit de tous les rapports intriqués, dont celui à la physique du globe, déterminant en dernière instance, est devenu irrésistiblement une norme universelle de la liberté, nécessaire et suffisante du gouvernement légitime. Or, cette notion de gouvernement légitime, je ne sais pas si elle a un statut vraiment philosophique dans la démarche de l'esprit des lois. Le despotisme n'est peut-être pas légitime, mais il est intangible, éternel, inexorable et sourd à lui la conquête du monde. Puisque les fleuves vont vers le despotisme, les régimes vont vers le despotisme, comme les fleuves vers la mer. Contrairement à ce qu'affirme un ouvrage de 2010 sur l'origine, l'histoire du libéralisme, je ne crois pas du tout que Montesquieu puisse vouloir, je cite, « libérer l'individu et la société », sauf à contredire toute sa méthode. Donc je crois que mort en 1755, Montesquieu, de par sa situation historique et de par sa méthode philosophique, je finis, n'a pas le moindre pressentiment de l'universalisation que s'apprête à vivre le régime anglais et la philosophie lockéenne. Puisque 20 ans après sa mort, on a la révolution américaine et le triomphe de plus en plus universel de la séparation des pouvoirs à travers le monde. Bon. Donc il me semble qu'il n'est pas, forcément vrai, mon analyse n'est pas forcément vraie, exact, on le verra dans quelques minutes, mais je pense qu'il peut y avoir à contre-courant parfois intérêt à prendre l'esprit des lois dans sa lettre et à se demander si dans les lignes, en appliquant strictement la logique du paragraphe 1 et du premier livre en général, à quoi on aboutit. Et il me semble qu'on aboutit à quelque chose qui n'est pas tout à fait incohérent. Et le paradoxe deviendrait alors, non pas que Montesquieu annonce ce qui va se produire, mais le paradoxe intéressant devient, comment se fait-il, par quelle opération, cette doctrine à pilotis monarcho-nobiliaire a-t-elle pu accoucher de ce que nous savons et qui a été célébré ici à juste titre.
Merci. Bon, alors, nous avons un peu de temps pour des questions. Je dirais qu'à ma gauche, théorie des pouvoirs cristallisant des rapports de forces sociaux et l'affect collectif de sécurité et de tranquillité. Et à ma droite, l'état de droit. Alors, vous pouvez adresser vos questions. Comme il y en aura peu, ne racontez pas votre vie, mais allez-y. Non ? Il n'y a pas de questions ? À M. Sauvé ou à Jean Golsing. Et...
Oui, c'est...
Levez-vous parce qu'on ne vous voit pas.
Voilà, je suis venue ici parce que je suis intéressée par tout ce qui concerne la justice, déplorant que dans nos écoles, on ne nous apprenne pas ce qu'est la justice. Plus tard, voilà, j'essaie de comprendre un peu les arcanes. Et vous avez parlé de l'équité de la justice, et donc je vous donne simplement mon sentiment de citoyenne, où je déplore des situations où je trouve qu'il y a inéquité dans la justice. Simplement comme exemple, je suis choquée que selon que... Enfin, par exemple, il y a une cour de justice pour juger certains hommes, les politiques en tout cas, contrairement aux autres. Enfin, vous voyez, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression que donc il y a deux, enfin il y a des systèmes de justice qui sont différents selon la position du citoyen, ou encore très récemment, mais je veux pas lancer une polémique inutile, oui. C'est l'affaire Tapie qui a été jugée par une cour particulière.
Donc vous vous posez une question sur le sentiment de la justice, c'est ça ?
Le sentiment du citoyen. Qui n'a pas équité dans le rendu de la justice. C'est ça, voilà, c'est pour répondre à l'équité qui a été mise en avant.
Quand j'ai évoqué l'équité de la justice, je fais référence au principe du procès équitable qui est consigné à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, les principes du procès équitable... ça n'est pas une justice d'équité. Une justice, elle juge en droit. Et c'est aussi pour moi l'occasion de rappeler que dans une société, il n'est pas sain que la totalité de la régulation des conflits monte au niveau des cours et des tribunaux. Il est extrêmement important de mettre en œuvre des méthodes de règlement des différends et des conflits qui puisse faire appel justement à l'équité. La justice, elle ne doit intervenir normalement qu'en dernier ressort. Mais quand elle intervient, elle statue en droit. Et à la lumière des principes du procès équitable, qu'est-ce que c'est que le procès équitable ? Ben, c'est un procès dans lequel les parties sont traitées également. C'est un procès qui est impartial, avec un juge qui est un juge indépendant. Avec un débat qui est public, qui est contradictoire. Le juge ne peut pas se déterminer par rapport à des pièces dont les parties n'auraient pas connaissance. Et quand un argument a été avancé par une partie, l'autre partie doit en avoir connaissance. C'est ça le procès équitable. Mais revenons à ce que vous dites. Les litiges dans une société complexe sont innombrables. Il faut les régler de la manière appropriée. Et si possible, par la médiation, par la conciliation, par ça c'est extrêmement important. Là, l'équité peut être prise en compte, pas seulement le droit. Si on monte dans la case justice, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des solutions qui parfois, j'allais dire, blessent l'équité. Encore qu'il y a toujours une limite à la justice. Hein. Si une décision de justice est gravement et grossièrement inéquitable, il faut peut-être aussi se poser la question de savoir si on a correctement appliqué le droit. Dernière question, vous avez dit que vous avez le sentiment que la justice n'est pas équitable entre les différentes catégories de citoyens. Alors, j'ai utilisé un langage un peu codé, un peu juridique, je m'en excuse, mais quand j'évoque le principe du droit au juge légal, ça veut dire que le même juge doit être compétent vis-à-vis de la totalité des citoyens. Et que justement, on ne doit pas être en capacité de choisir son juge. Et le droit au juge légal, c'est un principe notamment qui nous vient du droit allemand, et c'est un principe qui justement prohibe les juridictions sur mesure, les juridictions qui seraient composées en fonction des besoins de la cause, ou les juridictions d'exception.
Oui, Paul Trouillas, je suis l'auteur du livre « Séparation et civilisation ». Je m'adresse à Monsieur Golding. Est-ce que vous ne croyez pas que dans votre évaluation de l'esprit des lois, il faut tout de même tenir compte du contexte, c'est-à-dire que ce livre était profondément révolutionnaire, qu'il a été publié à l'étranger, que le seul fait de parler de l'Angleterre en France sous la monarchie était profondément provocateur, et que Montesquieu lui-même, en quelque sorte, avance masqué, se dissimule et dans son livre. Je crois tout de même qu'il prononce des mots aussi remarquables qu'à propos de la France, d'État libre. Je veux un État libre, je veux un peuple libre. On retrouve cela, vous trouverez la citation. Et il dit également, me semble-t-il, que notre monarchie ne comporte pas la division, la séparation des pouvoirs. Donc il appelle, j'allais dire, du bout du pied, justement, à cette séparation pour le peuple français. Et ne procède-t-il pas avec l'Angleterre comme il a procédé avec la Perse, n'est-ce pas? Parler de l'Angleterre, c'est aussi parler de la France, comme parler de la Perse, c'était parler de la France. Alors si les révolutionnaires se sont reconnus en lui, c'est quand même probablement que tout ce discours latent, tacite, travaillait dans les sociétés secrètes, les mouvements de contestation, et qu'il y a là peut-être une vérité de Montesquieu.
Alors là, vous touchez à un point qui m'a tracassé toute ma vie, non pas à propos spécialement de Montesquieu, mais de toute analyse d'œuvres littéraires, de toute analyse écrite, et que Léo Strauss a posé de manière extrémiste. Moi, je suis un tenant de la lecture littérale, c'est-à-dire de la prise en compte de la logique interne d'un texte avant de se demander si l'auteur, ce que l'auteur voudrait dire en tenant compte de la censure, de ceci, de cela. Dès le 18e, vous le savez aussi bien que moi, et sans doute peut-être même mieux que moi, on a accusé son analyse de la monarchie, hein, le régime purement monarchique, où la division est de 2 plus 1, d'être une satire de la monarchie. Montesquieu dit exactement le contraire. Alors, faut-il prendre... Il dit qu'il n'est pas là pour critiquer les gouvernements, mais pour rendre compte de leur logique, de ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Moi, la censure ne me semble rien expliquer au 18e, pour aucun texte, pratiquement. D'autre part, si on peut publier à l'étranger, on n'est pas gêné spécialement par la censure. Je pense qu'il est intéressant, qu'il est nécessaire de commencer par analyser la cohérence philosophique, méthodologique de l'esprit des lois, et de voir si le programme posé au premier livre, et par premier livre j'entends chapitre 1 et chapitre 3, parce que je tiens le chapitre 2 sur l'état de nature pour absolument pas fondamental, hein, puisqu'on peut déboucher du chapitre 1 sur le chapitre 3 sans l'état de nature. Et d'ailleurs, de l'état de nature, Montesquieu ne tire absolument aucun droit, contrairement à Locke, hein, absolument aucun droit. Le mot liberté n'est absolument pas prononcé dans l'état de nature. Je pense qu'il faut prendre au pied de la lettre la méthode et essayer de voir si quelque chose lui échappe. Et si quelque chose lui échappe, si quelque chose devient incompréhensible, une fois qu'on s'est bien creusé la cervelle, qu'on a interrogé les collègues, alors, en désespoir de cause, il faut se tourner vers les circonstances extérieures, la censure, l'état du lectorat, etc., la biographie de l'auteur. Mais si on commence par ça, on se donne toutes les cartes d'entrée de jeu pour interpréter le texte dans le sens qu'on veut, et en particulier la séparation des pouvoirs. Moi, je ne crois absolument pas que la séparation par trois des pouvoirs par trois comme en Angleterre, des trois pouvoirs par trois, soit quelque chose qui est, aux yeux de Montesquieu, la moindre possibilité d'extension. Ça ne peut pas s'étendre aux trois quarts du globe, parce qu'ils sont voués inexorablement, ces trois quarts sont voués inexorablement au despotisme, depuis la nuit des temps, hein. C'est un effet direct de la physique du globe. Et deuxièmement, ça ne peut pas s'européaniser, parce que la monarchie pure continentale dérive de la nature des choses, des 13 rapports articulés, que c'est le véritable régime monarchique. Et justement, c'est pour ça qu'on trouve la solution au livre 12, c'est-à-dire le sentiment subjectif de la liberté, qui est l'équivalent du principe de gouvernement, hein, de toute évidence, suffit à assurer une liberté plus modérée, mais comme il le répète à juste titre, il ne vise pas la liberté extrême, il vise une liberté modérée. Et je vous rappelle d'autre part que dans ses essais politiques, Hume déclare qu'en gros, un citoyen français a à peu près autant de droits et de libertés qu'un citoyen anglais. Pourquoi ? Parce que la républicanisation de la liberté n'est pas dans le projet Montesquieu. Et c'est ça que nous avons le plus grand mal à comprendre, parce que pour nous, voter est un droit fondamental, un droit naturel, un droit de l'homme et du citoyen. Mais il n'y a pas de droit de l'homme et du citoyen chez Montesquieu. L'individu n'existe pas en tant que fondement philosophique de l'esprit des lois. L'individu, c'est une doctrine holiste. L'individu n'a pas de droit possessif. Contrairement à Locke, chez Montesquieu, c'est la société qui forme l'individu dont elle a besoin pour fonctionner selon sa logique. Et quand elle change de logique, elle passe d'un type à l'autre, et bien elle change les passions vectrices, fondamentales, collectives des individus. Ce n'est pas un individualisme possessif, l'esprit des lois. Ou alors il faut le démontrer.
Bien, merci. Je crois qu'on va s'en tenir là, parce que nous avons un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Le prochain débat, on va enchaîner tout de suite. On fera une coupure à la fin de ce débat, du débat suivant, vers 17h30, mais on va passer directement maintenant au débat suivant. On va remercier nos deux intervenants.